Tout d'abord, nous tenons à remercier très chaleureusement le Centre d'Alembert et Hélène Gilbert de nous avoir invités. Et vous allez voir avec l'exposé que je vais vous présenter combien nous avons été sensibles à cette invitation. Avant que la théorisation et la méthodologie que nous avons à grands frais, mais avec beaucoup de patience édifiée et mise en œuvre, et avant qu'elle ne soit, c'est la dure loi du genre, soumise à la discussion, à la critique, voire même à la réfutation, finalement, la communauté scientifique de nos pairs, mais plus encore une bonne partie d'un corps professionnel et toute une génération d'étudiants en formation nous ont attribué la paternité de cette production théorique et assuré les profits symboliques qui sont associés. Alors cet effort de théorisation a abouti à ce que l'on connaît dans le milieu sous le nom de théorie de l'espace des sports ou théorie du système des sports qui a consisté à construire l'espace social des pratiques et des goûts sportifs dans la société française, ou pour le dire autrement, à analyser la structure ou la distribution sociale, sexuelle et générationnelle des pratiques et des comportements de loisirs à caractère sportif dans notre société, prise à un moment de son histoire. Alors ce fut là une toute petite révolution dans un tout petit monde universitaire, et alentour de ce monde social, et on peut sans forfanterie aucune parler à son propos d'un certain renouvellement problématique. Il suffit pour s'en convaincre de se reporter à l'histoire récente de cette discipline STAPS à laquelle on appartient, et auparavant à la littérature qui tenait lieu alors de sociologie, je mets des guillemets, à savoir d'un côté l'analyse psychologique des motivations des sportifs, Michel Bouet, 1960, et de l'autre, la critique radicale de l'institution sportive de Jean-Marie Brome en 70. Alors, ce renouvellement que l'on peut donc situer entre les deux versants motivationnels et institutionnels de cette réalité s'est opéré en France dans les années 80, puis s'est développé sur cette vingtaine d'années qui court jusqu'en 2000, dans une collaboration directe, étroite et, nous le croyons, fructueuse avec Pierre Bourdieu et son équipe. Et c'est accompagné d'un effet significatif de mobilisation d'étudiants et de jeunes chercheurs devenus, pour beaucoup, maîtres de conférences dans la discipline. Alors ceci assurant une certaine stabilité que j'appelle paradigmatique de cette production, développant et structurant un nouveau champ de connaissances, puis se constituant à son tour un obstacle épistémologique pour le lancement de nouvelles approches par de jeunes et empressés chercheurs que nous avons nous-mêmes pour beaucoup contribué à former. C'est la diffusion de nos ouvrages, plus de 15 000 exemplaires sur 5 rééditions pour le premier, puis pour plus de 6 000 exemplaires sur 3 rééditions aux presses universitaires de France pour le second, qui en a assuré pour l'essentiel la plus large publicité. Et ce rappel, qui ne doit, je vous le jure, rien à l'immodestie, est là pour indiquer, premièrement, l'adéquation de cette production théorique à des demandes sociales spécifiées, et pourtant assez variées, et elle a trouvé rapidement son public. Est-ce une tare au regard de la production scientifique ? Deuxièmement, pour souligner aussi une des particularités de nos productions dans le domaine des sciences sociales, elles ne sont pas réservées, comme dans bon nombre de sciences expérimentales de pointe, à un public très restreint de spécialistes au langage hyper spécifique de formalisation mathématique, consignés d'ailleurs dans des revues introuvables, mais s'ouvrent sur des publics intellectuels plus vastes en utilisant un langage naturel, accessible, compréhensible, ouvert à tous, et qui était en prise directe avec les objectifs de formation intellectuelle, de formation critique, scientifique et socioprofessionnelle que doit viser l'université. Alors la sociologie se veut, contrairement à ce qu'on peut penser, une science sociale authentique et exigeante. Elle adopte, en effet, le principe, les modèles et les exigences de l'esprit scientifique que Bachelard avait en son temps défini, à partir de la physique contemporaine, je vous le rappelle, comme ce qui s'inscrit dans cette dialectique de la raison et de l'expérience. Dialectique, pouvoir de rupture de la raison, qu'on appelle, nous, les théories et des concepts, les corps organisés d'hypothèses, et dialectique avec ce pouvoir rectificateur de l'expérience, enquête, sondage, servant de procédure de validation ou, au contraire, d'infirmation, et aussi de découverte. C'est ainsi que nous visons, comme les scientifiques purs et durs, mais sans les singer, à soumettre le plus rigoureusement possible un corps organisé d'hypothèses à des procédures contrôlées de validation, et d'ailleurs collectivement contrôlées, ce qui constitue notre point fort. Mais, il y a un mais, le sociologue, lui, est soumis, comme la plupart des représentants des sciences sociales, à deux propriétés qui font aussi sa faiblesse. D'abord, il parle un langage naturel, et il est lui-même un acteur social, socialement positionné, socialement engagé, et on le voit bien en l'occurrence, professionnellement engagé, ce qui exige une prise de distance par rapport à ses propres présupposés. Alors, ce qui fait sa fragilité scientifique aux yeux d'un physicaliste fait aussi son intérêt du point de vue de sa portée sociale, de l'impact social qu'il veut sans complaisance dans son discours. Alors, travailler sur la sociologie du sport, qui est un fait social total, et de plus, lorsque le sociologue est situé au cœur même, au sein d'un monde, STAPS et son environnement, qui fait profession de toutes les fonctions sociales qu'assume le sport contemporain, fonctions éducatives, récréatives, intégratives, économiques, technologiques, commerciales, spectaculaires, médiatiques, j'en passe, bien sûr, ne peut être considéré comme un gage de neutralité axiologique. D'autre part, un phénomène social quelconque pris dans ce registre particulier est toujours, vous le comprenez, fort bien plurifactoriel. Ce qui nous interdit d'isoler et de contrôler complètement une variable, comme on le fait toujours dans les protocoles expérimentaux. Et si les tentatives de réfutation sont possibles, et d'ailleurs fréquentes, nous pouvons prendre sans complexe nos distances respectueuses à l'égard de toutes les ratiocinations post-popériennes. En bref, pour appréhender nos produits théoriques, il ne faut pas les ranger dans l'ordre de la pensée expérimentale et physicaliste, mais les saisir plutôt dans l'ordre de la pensée interprétative ou compréhensive, qui mérite pourtant, je vous l'assure, attention et intérêt, parce qu'étroitement soumis aux effets de sens. Registre de la pensée interprétative dans lequel des significations symboliques, des objets et des espaces, des postures et des comportements, des techniques et des gestes, ont toute leur place parce qu'elles sont au cœur de la relation entre les hommes dans une culture et une société donnée. C'est parce que les sciences humaines et sociales sont d'un ordre de complexité et de difficulté sans commune mesure avec l'étude expérimentale de phénomènes bien identifiés, isolés de la nature, que leur textualité est d'une toute autre nature précisément. Nous sommes contraints de travailler au cœur de la langue, de mobiliser toutes les ressources de l'imaginaire, toutes les références de la culture pour tenter de faire émerger des effets de sens bien plus complexe et plus subtil que ce qui s'opère au fond dans l'accord à plat entre d'une part une expérimentation bien instrumentée dans des protocoles bien routinisés et au sein d'un laboratoire au sein duquel, qui est un milieu social particulier et sélect, où le mandarin a depuis longtemps réussi à pacifier les relations. Autant dire que la sociologie est bien un sport de combat, sport collectif de combat, comme Bourdieu le disait lui-même de sa discipline. C'est dans un monde intellectuel et médiatique actuel, et aussi à l'expérience dans une université qui a construit son identité autour des sciences dures comme la nôtre, c'est même, je dirais, un sport de combat de percussion, parmi les plus âpres et douloureux dans ce monde universitaire où, il faut bien le dire, nous n'avons pas été très bien accueillis, puis qui nous a assez méchamment marginalisés. C'est un autre état de fait, un autre contexte dans lequel il nous faut précisément nous situer pour comprendre quelques traits de notre problématisation et de son articulation avec des demandes sociales définies, qui ont pu lui conférer une certaine légitimité, une bonne visibilité externe. On ne comprendrait pas cette politique résolue de recherche contractuelle de notre petite équipe, avec des partenaires extérieurs à l'université, des ministères, des fédérations sportives, des décideurs territoriaux, afin de trouver à l'extérieur de cette université, dont nous avions, soit dit en passant, intégré le niveau d'exigence, et qui ne nous reconnaissait pas, ou si peu, comme exotique. C'est dire si nous nous sommes parfaitement retrouvés dans le remarquable exposé des objectifs de ce colloque, que nous pourrions reprendre point par point pour notre présence exposée, mais aussi pour notre réflexion ultérieure et pour notre édification épistémologique propre. Peut-être même en raison de l'incertitude épistémologique des sciences sociales contre laquelle leurs représentants doivent scrupuleusement se prémunir, peut-être pourrait-elle servir de modèle d'analyse à celles plus expérimentales qui se sentent mieux assurées sur le fondement pour suivre à la lettre l'exposé des motifs de ce colloque. D'où viennent les concepts adoptés et utilisés? Comment s'inscrivent-ils dans une tradition selon le poids social de ces paradigmes pris à un moment donné de l'histoire de la science considérée? Comment et pourquoi la problématique a-t-elle été soumise à des contraintes sociales et économiques comme celles qui s'exercent à travers des commanditaires avec lesquels les chercheurs doivent malicieusement financer afin de ne pas succomber à leurs effets inductifs? Quel fut le pouvoir de mobilisation de la nouvelle théorisation auprès des étudiants, épigones, affidés, jeunes chercheurs, phalanges déterminées ou réseaux dormants, essaimages d'anciens docteurs formés au moule dans les autres universités? Comment s'est-elle collectivement produite et fut-elle collectivement contrôlée? A-t-elle fait école? S'est-elle constituée ou non en tradition avant que ne se manifestent à son encontre les coups de main de la réfutation par les chevaux légers de la recherche sociologique? Combien de temps s'est opéré une certaine stabilisation paradigmatique de la théorie pour assurer l'accumulation des connaissances, des expériences, constituant autant d'étayages et d'argumentations à son profit? Quand et comment s'est opéré insidieusement sa dogmatisation? Dogmatisation, je vous le rappelle, qui menace, vous le savez, toutes les théories. Enfin, remarque surprenante, le sexe du chercheur peut-il opérer quelque impact sur la formulation de ladite théorie, construite au sein d'un monde masculin, sur un objet alors largement approprié par les hommes, au point de se constituer comme élément constitutif de la culture masculine? On pourrait, sur ces différentes questions, répondre de manière circonstanciée. On s'en tiendra, vu le temps imparti, à quelques réponses présentées sur un mode récréatif et illustré. Alors, d'où viennent ces concepts, outils intellectuels précieux et opératoires, étroitement organisés en une théorie sociologique de la distinction et de la différenciation? Espace des positions sociales, conditions d'existence, habitus, dispositions, pratiques et styles de vie. Et finalement, théorie construisant la différenciation des cultures au sein même de notre propre société, hiérarchisée en classes, elle-même divisée en fractions, concepts qui viennent évidemment en droite ligne, vous l'avez compris, de la sociologie de Pierre Bourdieu. Nous allons voir dans quelques instants les effets organisateurs, compréhensifs et éclairants de l'application sur notre domaine de cette armature théorique. Mais inévitablement, c'est aussi une sociologie marquée à gauche, nul n'est parfait, ce qui n'est évidemment pas sans intérêt, ni évidemment sans effet sur son déroulement. Je ne parlerai pas des conditions étranges, mais nullement contingentes, dans lesquelles s'est opérée cette rencontre avec ce professeur au Collège de France et cette collaboration si improbable, mais plutôt évoquer le contexte social et politique dans lequel se sont trouvés réunis pour la première fois en France les conditions institutionnelles du lancement d'une recherche méthodologiquement armée en sociologie du sport. Alors, outre les effets déjà patents de la crise culturelle des années 70-75, qui furent marquées par un changement significatif de régime, au sens de la machine, dans l'organisation du sport et de l'éducation physique, que les 30 Trente Glorieuses, puis la Ve République, avaient permis de réaliser, essentiellement sur la base d'une politique d'accroissement du niveau de performance des élites sportives et de l'augmentation de la masse des jeunes pratiquants sur les grands sports athlétiques qui font, au fond, les succès olympiques d'une nation. Or, les effets conjugués de la crise culturelle de 68 et économique de 74-78, le changement des mœurs et des modes de vie, la diffusion d'une culture anti-autoritariste et d'une humeur anti-institutionnelle dans le public, autant que l'aménagement du territoire, des massifs montagneux et des littoraux, ont poussé au développement considérable des loisirs sportifs libres, individuels et solvables d'ailleurs, et à la montée en puissance de nouveaux modèles sportifs de référence. Autant de phénomènes qui jouent, on le comprend, au détriment du modèle sportif fédéral et compétitif, mais qui parallèlement fixent l'attention des acteurs et des décideurs sur les nouveaux enjeux économiques attachés au développement des loisirs des Français au moment où s'amorce le désinvestissement budgétaire de l'État. Ce sont autant de facteurs qui ont appelé les politiques à lancer la première enquête nationale sur les usages sportifs du temps libéré, 1985-87, succédant immédiatement à l'enquête du commissariat général du plan, deux grandes enquêtes auxquelles nous étions étroitement associés, soit comme chercheurs, soit comme directeurs scientifiques. Alors, en quoi cette problématique est-elle ou fut-elle originale? Il n'est pas sans intérêt de rappeler que ces travaux se sont amorcés ou déroulés d'abord dans le contexte de l'INSEP, qui est un monde des entraîneurs, une culture dominante des techniciens. Et c'est un monde masculin, résolument attaché à la production, je viens de le dire, du plus haut niveau, au plus haut degré de performance d'une élite, fondée sur le recrutement le plus large possible des jeunes talents potentiels par les entraîneurs. Alors, ces travaux pionniers se sont aussi engagés dans le contexte socio-idéologique, ou si l'on préfère, culturel, très prégnant, propre à un corps professionnel d'enseignants d'éducation physique, attaché à la démocratisation la plus large possible des activités sportives d'un public adolescent. Aussi, les uns et les autres, entraîneurs et professeurs, étaient tous marqués par un seul et même présupposé étroitement lié à leurs implications personnelles propres qui structurent tout leur discours. Ainsi, tout le monde pratique tous les sports également, quelle que soit leur appartenance de classe, en fonction des choix d'un sujet souverain. Tout le monde pratique tout. Alors, ceci peut aisément s'expliquer par un fait d'évidence que leurs actions, au fond, essentielles de démocratisation des activités avaient bien porté leurs fruits. Alors, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, et tous les sports possibles sont également offerts au public français, du boomerang à la planche à voile, du tir à l'arc à l'équitation, de l'athlétisme à la gymnastique acrobatique, de l'escrime au sabre à la spéléologie. Tous les sports sont éducatifs et tous sont diffusés équitablement et largement, sans autre contrainte et déterminant. Et le sociologue, là, n'est pas le bienvenu, ni dans le corps, ni dans un corps, ni dans l'autre. Alors, ce monde sportif, qui a connu depuis les années 60 à la fois son plein développement et reçu ses lettres politiques de noblesse, oui, c'est encore le moment du consensus. En revanche, dans le monde intellectuel, au même moment, 1970, travaillé par les sciences humaines et sociales, c'est au contraire l'ère du soupçon. École de Francfort, Foucault, Lacan, Bourdieu. Le travail consistant alors à se glisser dans ces perspectives et occasions de recherche et dans ces enquêtes nationales lourdes, fort de la connaissance du milieu, je dirais interne du milieu, et aussi de cette familiarité avec les cultures sportives pour leur appliquer sans complaisance et avec rigueur les concepts de la sociologie et fort de l'armature théorique de Pierre Bourdieu. Nous avons en effet était fermement soutenu par Pierre Bourdieu, qui y avait alors circonstance et dans ses affaires ses propres enjeux, le passage à l'université des chercheurs impliqués, Catherine Louveau, Jacques de France et moi-même, devant assurer une certaine mise à distance critique jugée nécessaire vis-à-vis des institutions commanditaires. Mais il y a un mais, et c'est un ultime mais, je vous jure, les STAPS en général sont des espaces universitaires où l'on a pu se glisser, ne sont pas des espaces neutres, mais des lieux universitaires déjà très bien structurés, parce que travailler en profondeur par une forte tension entre deux ordres de la pensée scientifique déjà évoqués, entre le social et le vital, c'est-à-dire entre, d'une part, les sciences de la vie et les sciences cognitives, étudiant les mouvements hyper complexes de l'homme en action sportive, étudiant leur régulation, leur contrôle et leur régulation, et regroupant tous les chercheurs expérimentateurs, sinon expérimentalistes, forts des prodiges actuels des sciences de la vie et de la santé, soutenus par ce mouvement extraordinaire, fascinant, de ces prodiges. Et d'autre part, les tenants des sciences humaines et sociales. Alors, eux, ils sont attachés à l'analyse des composantes et fonctions du phénomène social total que constitue le sport, dont l'ampleur et les impacts sociaux légitiment l'existence même de l'ensemble de la discipline STAPS. C'est là qu'elles trouvent véritablement leur légitimité. Et ce sont eux qui assurent l'essentiel des formations et des débouchés professionnels des étudiants, mais qui sont aujourd'hui socialement dominés et de plus en crise d'identité. Vous avez entendu parler de la crise des sciences humaines. STAPS, vous avez dit STAPS, ben, ce sont donc deux camps engagés dans d'âpres luttes de prévalence et pour des enjeux évidents de recrutement de chercheurs dans l'un ou l'autre de ces domaines irréductibles, quoique également légitimes en termes scientifiques. Ainsi, dépassant les affres qu'on peut personnellement éprouver, que les derniers, en tout cas, peuvent éprouver en cette période, c'est un espace social ou un champ socio-universitaire extrêmement intéressant à étudier dans sa logique concurrentielle propre, dans sa dynamique relativement autonome, mais aussi en tant qu'elle reçoit des effets et des impacts. Ce champ minuscule, forcément dérisoire, reçoit ici les grandes questions qui agitent aujourd'hui et la société, et aussi le monde savant et le monde des philosophes. On s'y est pris en deux temps pour analyser ce phénomène, en 1999 et 2004, pour étudier les fondements scientifiques initiaux de la discipline, puis pour étudier les effets de cette tension fondamentale qui la dynamise. Alors, notre raison sociale, mais au-delà de ces réflexions d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques appliquées au STAPS, notre raison sociale, c'est la sociologie des sports. Entendu, je le répète.
Juste une question, c'est pas pour vous arrêter, mais je ne sais pas quelle partition de temps vous vous êtes donné avec Catherine. Donc, moins nécessairement, moins.
Deux tiers, un tiers, c'est normal.
Les stats sont vraiment
un domaine massif. Accélérer. Alors, on peut s'en tenir aux aspects les plus représentatifs et les plus illustratifs de cette théorie. D'abord, il s'agit, je le rappelle, de construire l'espace des sports, la distribution sociale par rapport à l'espace des positions sociales, qui est un concept central de la théorie de Pierre Bourdieu et Monique de Saint-Martin, en fonction des rapports de régularité statistique. Bon, vous allez très vite comprendre le schéma simplifié de l'espace des positions sociales pour comprendre des différenciations de goût, de comportement dans un registre particulier quelconque. Mais ici, en l'occurrence des pratiques et des goûts sportifs, eh bien, on peut situer les sujets sociaux que nous sommes tous ici sur un espace à deux dimensions. Sur la verticale, on examine le volume global du capital, des ressources et des pouvoirs dont on dispose en termes de capital économique, social et culturel. Et sur l'horizontale, la structure de ce capital, c'est-à-dire sa composition sur le rapport du capital culturel et du capital économique. Bien. Eh bien, voilà. Donc, c'est un espace à deux dimensions. Sur la gauche, on placera ceux qui disposent d'un capital culturel fort par rapport à un capital économique faible, tandis que sur la droite, on placera ceux qui ont une structure inversée, c'est-à-dire fondée sur un capital économique fort par rapport à un capital culturel faible. Voilà. Donc, vous pouvez vous placer. Les professeurs du supérieur, que j'ai immédiatement placé, bien sûr, en haut à gauche, s'opposent en tout point aux patrons du commerce et de l'industrie. On verra les oppositions de style de vie qui sont tout à fait caractéristiques. Vous pouvez vous situer sur ces différentes catégories. Alors, c'est une structure triangulaire. C'est intéressant de le noter. Les trois fractions de la classe dominante, fraction dominée de la classe dominante, en haut à gauche, fraction dominante de la classe dominante en haut à droite, puis les classes moyennes, n'est-ce pas, qui constituent les trois fractions des classes moyennes, et enfin les opérateurs directs, qui sont considérés dans une structure hiérarchisée comme les classes dominées. Bien, un système d'enquête nationale entreprise sur une très grande quantité de sports pris un à un a permis de dessiner la structure sociale de leur structure, de leur recrutement respectif. Voilà, c'est tout à fait... Prenons l'exemple du rugby, par exemple. La structure sociale du rugby français dans les années 80 est, tout, d'ailleurs, sport de combat assimilable à des guerres euphémisées. Ils aiment la chasse, la tauromachie et la force basque, les libations entre compagnons et la consommation rituelle du steak saignant. Ça, c'est pour les observations anthropologiques faites in situ, n'est-ce pas? Ils n'aiment pas les cavaliers ni les golfeurs, et ils détestent tous ces sportifs qu'ils nomment les culs en l'air et qui sont en sport, qui n'ont pas, en quelque sorte, les pieds sur terre. Ce sont les plus terriens des sportifs. Au contraire, le vol libre, qui est aux antipodes culturels de cette première pratique, révèle, au même moment, capte électivement ceux qui, dans notre société, entretiennent culturellement un rapport raffiné au monde des objets techniques. Ce qui explique la surreprésentation d'ingénieurs et de techniciens que l'on a pu, au même moment, je le répète, y repérer. Alors, il existe dans notre société un système d'opposition des goûts sportifs selon les classes, c'est-à-dire selon la verticale. Dans les classes dominantes, supérieures, c'est l'utilisation de machines. Corps véhiculé, propulsé, tracté, voilà. Au niveau des classes moyennes, c'est un corps instrumenté, mais encore moteur, n'est-ce pas? Et au niveau des classes défavorisées ou populaires, c'est un corps instrumental, outil ou projectile. Mais l'intérêt de l'utilisation de l'armature théorique de Pierre Bourdieu montre qu'au-delà de ces oppositions de classe, il existe des oppositions de fractions de classe. C'est-à-dire à l'intérieur de chacune de ces catégories, vous pouvez repérer une tendance à l'écologisation des pratiques du côté des fractions nanties en capital culturel, tandis que vous avez une tendance à la motorisation des pratiques du côté des fractions nanties en capital économique. Voilà, je passe très vite. Très bien. Alors, voici reconstitué, vous imaginez avec à grands frais, à bas bruit, mais à grands frais, l'espace des sports saisi dans les années 95-2000. On peut retenir les principaux systèmes d'opposition qui le structurent, selon les classes et selon les fractions de classe. Alors, la théorie de l'espace a suscité deux types de réactions, et je termine là-dessus. Elle a pu favorablement résister à une tentative explicite de réfutation à travers l'analyse des pratiques du yachting, qui révèle que quand on monte dans le capital économique du propriétaire, le tonnage du bateau s'accroît, et lorsqu'on va du côté des patrons du commerce et l'industrie, on motorise à 80%, tandis que on va vers les patrons, les professeurs, les professions libérales et les cadres supérieurs, on voilise à 80%. Donc on avait parfaitement pris acte de ce double système d'opposition. Mais cette théorie a pris acte d'une critique, elle, tout à fait pertinente et a engagé la rectification qui convient. Ceci se tient en effet, me dit-on, mais c'est étrange, votre système me paraît être l'espace des sports masculins. Catherine Louveau, 1990. Et elle montre que en haut à gauche, les femmes n'y sont pas, ou à moins de 4%, dans les espaces, le grand espace suffocant et risqué. En haut à droite, chez les motorisés, elles n'y sont pas non plus. Et lorsque la proximité du corps avec l'adversaire était très nette et très forte, elles n'étaient pas non plus des exclusives, des préférences féminines, avant un progressif investissement des zones jusque-là délaissées par les femmes et par les filles. Où sont les femmes? Elles renforcent leur bastion traditionnel de danse et de gymnastique, mais les femmes investissent désormais les sports de tradition masculine.